Bonsoir à tous.
Seigneur vous bénisse. Nous allons lire un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 17, versets 5-6. 17, 5, 6. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer. » Et il vous obéirait. Amen. Veuillez vous asseoir. J'ai eu l'occasion, durant la semaine, de rencontrer quelques chrétiens avec qui j'ai parlé, qui avaient des problèmes comme tout le monde, pas des problèmes terribles, terribles, mais des problèmes comme tout le monde, mais ils n'arrivaient pas à prendre le dessus, et ils m'ont demandé de leur parler au sujet de la foi. Alors je leur ai parlé un peu au sujet de la foi, pour que leur foi augmente. Et il y avait comme un malaise, parce que quand on les écoute, quand je les écoutais parler, je voyais qu'ils disaient avec conviction qu'ils croyaient au Seigneur Jésus. Mais je crois au Seigneur Jésus. J'ai confiance, je crois au Seigneur Jésus. Et ça me mettait mal à l'aise. Avoir la foi en Jésus, c'est pas juste croire dans son existence. Croire en lui implique que nous lui fassions confiance, confiance au point de lui obéir, confiance au point de l'obéir en tout point, enfin, du moins, dans ce qui est écrit, pas dans ce qu'on se sent poussé à faire. Croire en lui implique que nous lui fassions confiance au point de lui obéir dans tous ses commandements écrits dans la Bible. Alors, c'est vrai que beaucoup ne s'appuient que sur Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, on est sauvé, on a la vie éternelle parce qu'on croit. Mais le diable aussi y croit, il tremble. Quelle est la différence entre la foi du diable qui croit au Seigneur Jésus? La Bible dit aussi par ailleurs, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Alors peut-être le diable est sauvé et puis sa famille aussi pendant qu'on y est. Hein? Non, non, non. Croire en lui pour être sauvé, c'est parfaitement juste, parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Nous croyons que Jésus-Christ a tout accompli, c'est vrai, pour que nous soyons parfaitement sauvés, c'est vrai. Mais sauvé de quoi? Sauvé de quoi? Je me rappelle quand j'étais jeune converti, j'avais dit ça à mon patron, M. Marcel Delédret, qui était décorateur à Béthusy, à Lausanne. Puis j'avais dit, mais sauvé de quoi? Parce que j'avais dit, Jésus est le sauveur, est-ce que vous êtes sauvé? Mais sauvé de quoi? Il m'avait dit. J'étais resté tout bête. J'ai dit, ben de l'enfer, parce qu'à l'époque, c'était la seule chose que je connaissais. Hein. On était sauvés de l'enfer. J'avais 2-3 jours de conversion. Hein, je ne pouvais pas lui dire beaucoup plus. Nous sommes principalement sauvés, mes frères et sœurs, là, tout de suite, de l'impossibilité de le servir, de l'impossibilité de lui être soumis, de l'impossibilité de lui être agréable. Parce qu'avant que l'Esprit de Dieu vienne nous habiter, avant que nous ayons placé notre foi en lui, eh bien, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas venir en nous, et à partir du moment où il est venu en nous, alors il nous a commencé à être possible, nous avons pu commencer à lui être agréable, parce que nous avons pu commencer à faire sa volonté. Avant, c'est impossible, la Bible est claire, l'homme animal ne le peut pas, il ne peut pas, il veut bien. Vous connaissez la chanson? Je vous la chante ou je ne la chante pas? Je vous la chante. Je voudrais, ben, soin, 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 mais je peux, point, soin, soin. Je fais des bêtises. Ouais, oui. L'homme animal ne peut pas. L'homme animal, sans Dieu, il est captif, il est lié, il est aveuglé. Voilà. Alors Jésus est venu pour se substituer à nous. C'est-à-dire, nous étions séparés de Dieu, il s'est substitué à nous, il était séparé de son Père. C'est ça que ça veut dire. Comme nous étions séparés de Dieu, il est venu et il était séparé de son Père à la croix. Dieu l'a abandonné. C'est pourquoi l'homme Jésus, tout d'un coup sentant cet immense vide, a crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a eu une frousse terrible. Il a senti ce que c'était. Nous, on a toujours été sans Dieu. On est né comme ça. Donc on ne sent rien, on ne se rend pas bien compte. Mais lui, il a toujours été en communion avec son Dieu. Et puis voilà que tout d'un coup, Dieu le lâche. Jésus s'est substitué à nous à la croix, nous étions abandonnés par Dieu, incapables de lui plaire, alors il a pris notre place, il est devenu ce que nous étions, c'est-à-dire maudit. Il est devenu un maudit. À la croix, Jésus est mort maudit. Et c'est à cause de cette malédiction, la nôtre, qu'il a pris sur lui, que nous avons maintenant accès à la bénédiction qui était sur lui avant la croix. Si seulement nous croyons cela, alors il vient faire de nous son habitation. Il vient habiter en nous. Et il nous rend capables de faire les choses qu'il faisait alors qu'il vivait sur cette terre. Et la première chose, alors évidemment, tout de suite, on pense, ah, les mêmes choses que j'ai faites, vous pourrez les faire aussi. Alors, on pense des grosses choses, hein, déplacer des montagnes, guérir les malades, marcher sur l'eau, voilà. Mais non, mais la première chose que Jésus faisait et que nous ne pouvions pas faire, c'était d'obéir à Dieu. C'est vrai, ça, nous ne pouvions pas. Avant de connaître Jésus, non. Oui, on obéissait à certains commandements parce que, par exemple, si vous brûlez un feu rouge, c'est dangereux. Il y a des choses, on faisait, on obéissait parce qu'on avait la trouille. Peut-être pas forcément de l'enfer, mais des conséquences, toutes sortes de choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui font du bien parce que c'est bien de faire le bien. Mais d'obéir à Dieu, c'est pas seulement faire le bien, c'est de faire sa volonté. Il y a des exigences qui sont encore bien plus grande que simplement faire le bien, c'est-à-dire payer ses impôts, être gentil, être poli, se lever dans le métro pour laisser de la place à des vieux, à des vieilles comme moi. Quelqu'un qui m'a laissé sa place dans le métro un jour, un jeune, ça m'a fait drôle. Bon, voilà, c'est la preuve que je suis vieux. C'est pourquoi j'ai dit, mes frères et sœurs, que si nous mettons notre foi en Jésus-Christ et devenons ses disciples obéissants, notre Père nous pardonnera nos péchés et nous préparera à retourner auprès de lui. Mais croire, non. Ça, c'est le diable qui croit, puis c'est tout. Il croit, puis c'est tout. Nous, c'est croire et devenir des disciples. Croyez et soyez baptisés, c'est l'engagement, n'est-ce pas? C'est par notre foi, notre repentir, notre obéissance que nous permettons, à son expiation, de prendre tout son effet dans notre vie. Si c'est simplement « je crois », ben non, je ne suis pas d'accord. Pardon, je ne suis pas d'accord. Grâce à la foi, nous recevons de lui la force de surmonter les difficultés, les épreuves et tout ce qui peut nous arriver. C'est vrai. C'est de ça dont nous sommes sauvés. Quelle influence la foi en Jésus-Christ a-t-elle sur votre vocation dans son Église ? Quelle influence la foi en Jésus-Christ a-t-elle sur vos relations familiales? Quelle influence la foi en Jésus-Christ a-t-elle sur votre emploi? Il y a plein de gens qui vont à l'église, qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Il y a plein de gens qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ et ils aiment leur papa, leur maman, leurs enfants, leur grand-père, leur grand-mère, leur tonton. Hein? Et il y a plein de gens qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ et qui bossent. Mais vous, quelle influence la foi en Jésus-Christ a-t-elle dans ces choses-là? Qu'est-ce que ça change? Comment la foi en Jésus-Christ influence-t-elle notre espérance de la vie éternelle? Alors, notre foi, elle ne doit pas être passive. L'apôtre Paul nous le dit, elle doit être active, donc elle nous pousse à l'action. Mais à quelle action? Mes frères et sœurs, quand j'écoute ce que Jésus dit là, il ne répond pas, il ne leur dit pas, « Ah bon, vous avez passé la foi, vous voulez que je vous augmente la foi ?»« Abracadabra !» Ça y est, vous avez un peu plus de foi. Non, pas du tout. Il ne leur dit pas ça. Il leur dit tout simplement, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, ça veut dire que vous n'avez même pas ça. Vous n'avez même pas ça. Vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. » C'est-à-dire qu'il est en train de dire qu'il faut que vous ayez une semence de foi. On ne peut pas l'augmenter. Il faut simplement avoir une semence de foi. Si vous l'avez, ça suffit déjà. Déjà, vous pourriez faire ça. Mais dire à un sycomore de se jeter dans la mer. Ce serait formidable, hein? Déjà ça. Mais frères et sœurs, quand la foi est active, elle est récompensée. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. C'est une des raisons pour laquelle on doit s'efforcer d'augmenter notre foi. On ne doit pas demander à Dieu de le faire. C'est à nous de nous efforcer d'augmenter notre foi. Sachant que la foi, à la base, Dieu dit que c'est comme une graine. Alors, un grain de sève, c'est un grain de moutarde, c'est tout petit, mais ça devient très grand, paraît-il. J'en sais rien, moi je n'ai jamais vu, hein, mais pareil, Jésus l'a dit. Alors, comment est-ce qu'on peut augmenter notre foi? Eh bien, il faut arrêter de spiritualiser les choses. C'est parce qu'ils spiritualisent tout que ces gens que j'ai rencontrés cette semaine sont dans des problèmes parce qu'ils veulent analyser, entre guillemets, spirituellement la situation. Mais il n'y a pas... c'est bête de faire comme ça. On n'analyse pas spirituellement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par spirituellement. Ça m'énerve, ces trucs. Ce n'est pas comme ça. Nous augmentons notre foi de la même manière que nous cultivons n'importe quelle autre capacité. Comment est-ce que nous perfectionnons, par exemple, le piano? Stéphane joue du piano. Comment les enfants jouent du piano? Comment est-ce qu'ils perfectionnent leur capacité au piano? Comment est-ce qu'on perfectionne notre capacité de faire de la maçonnerie, comme Franck en ce moment, et Eric, Jacques? Comment est-ce qu'on fait pour augmenter, perfectionner notre capacité de faire de bonnes choses en cuisine, etc., etc., etc.? Eh bien, un, on étudie. Deux, on exerce. Trois, on se met au boulot. Et en faisant ça, eh bien, on s'améliore. Quand on regarde les premiers travaux qui ont été faits dans le château et puis ce qui se fait maintenant, eh bien, on s'est tous améliorés. Hein? Vous voulez tout recommencer d'ailleurs. Parce qu'au début, ce n'était pas ça. On s'améliore quand on commence à faire. En faisant ça, on s'améliore. C'est-à-dire, on étudie, on s'exerce, et puis on le fait. Eh bien, c'est la même chose pour la foi. Si vous voulez augmenter, accroître votre foi en Jésus-Christ, vous devez y travailler. Il ne faut pas demander à Dieu de le faire. Seigneur, augmente-nous la foi. Oui, attention, vous êtes prêts, vous êtes bien en position sur vos genoux. Ah, fermez les yeux, levez les mains. Abracadabra! Ça y est. C'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. C'est vous qui devez faire. Mes frères et sœurs, si vous voulez vous éveiller, si vous voulez donner de l'essor à vos facultés, n'importe lesquelles, si vous voulez donner de l'essor à votre foi, c'est comme ça. Si vous voulez donner de l'essor à votre foi jusqu'à faire l'expérience du pouvoir divin, c'est comme ça. Ça n'est pas autrement, c'est le seul chemin qui existe. Et si vous voulez faire prendre de l'essor à votre foi et faire preuve d'un tout petit peu de foi, comme un grain de sève, eh bien, il faut commencer, c'est tout petit. Ça commence par un désir. Désirez-vous croire dans le sens biblique? Désirez-vous croire dans le sens que Jésus dit de croire, pas simplement croire dans l'existence, mais croire dans la seigneurie de Jésus? Si vous avez ce désir, il ne faut pas étouffer ce désir avec des soucis, en disant « Oh, je ne vais jamais y arriver, c'est trop compliqué, j'ai déjà essayé, je n'ai pas réussi ». Laissez ce désir grandir en paix en vous. Jusqu'à ce que ce désir puisse faire place à une parole divine qui est chargée de puissance. Jusqu'à ce que ce désir puisse faire place à la chose que vous désirez. Si vous faites la place dans votre cœur à une parole divine, à une promesse divine, cette parole divine, elle va se comporter comme une semence, c'est-à-dire, elle a l'air morte, mais c'est vivant et ça va grandir. Si vous ne la détruisez pas, cette semence, par votre incrédulité ou par vos inquiétudes, eh bien, elle va commencer à s'imposer en vous. Ça va s'imposer en vous. L'incrédulité, mes frères et sœurs, l'inquiétude, l'impatience, le découragement, c'est des poisons qui s'opposent et qui opposent une résistance à la vie de la parole de Dieu qui est semée en vous. C'est un poison qui oppose une résistance au Saint-Esprit. C'est un poison. La parole divine en vous, elle doit germer sous votre protection. Et c'est vous qui devez protéger votre jardin, comme Adam et Ève devaient protéger leur jardin d'Éden. Ils devaient le protéger, ils devaient le garder. Eh bien, vous devez garder aussi votre jardin, votre cœur. Et alors, cette semence qui est en vous, elle va commencer à germer. Elle va donner une vie à votre intelligence. Ça ne va plus simplement être votre vie, mais ça va être la vie de Dieu dans votre intelligence. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu qui est dedans. Si vous voulez, je peux vous dire autrement. Dans la parole de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. Mais l'esprit, c'est la vie. D'accord ? Une parole divine n'agit pas en dehors de ce principe. Jamais. C'est pourquoi on peut connaître la Bible par cœur et vivre dans les ténèbres de la bêtise, de la sottise, de l'incrédulité, de la religiosité, quoi. Et connaître bien la Bible, voir la citer. Alors souvenez-vous, frères et sœurs, c'est ça le chemin. Vous pouvez vous-même augmenter votre foi en donnant suite à votre désir d'augmenter votre foi. C'est ça. Vous pouvez augmenter votre foi en donnant suite à votre désir d'augmenter votre foi. Si vous ne faites pas ça, ça ne sert à rien de prier. À rien du tout. Trop de gens prient comme ses disciples. Seigneur, augmente-nous la foi. Puis attendent que Jésus dise oui, abracadabra. Ils attendent. Ils peuvent attendre longtemps. Ça ne se passe pas comme ça. Ils n'entretiennent pas leur jardin intérieur. Ils n'entretiennent pas leur cœur. Ils ne font pas attention d'enlever les ronces, d'enlever les soucis, d'enlever les mauvaises herbes qui sont là pour étouffer ce désir de la foi. Par contre, si vous entretenez en vous le désir d'augmenter votre foi, alors la place sera faite à une semence, à une parole qui est chargée de puissance vivante. Je ne sais pas moi quel est votre besoin. Peut-être vous n'avez pas forcément besoin de jeter tous les sycomores à la mer. Peut-être vous avez d'autres besoins plus intelligents. Peut-être, je ne sais pas, vous avez besoin de réussir dans une affaire que vous êtes en train d'entreprendre. Ou peut-être vous avez besoin de guérir d'une maladie. Ou peut-être vous avez besoin, je ne sais pas, n'importe quoi. Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Mais comment croire pour en arriver au point de voir la maladie reculer, la pauvreté reculer, enfin tous les sycomores se jeter à la mer. Comment? Demander seulement, c'est absurde. C'est contre la loi divine, contre. Il faut une action. Et votre action, c'est de raviver constamment votre désir d'augmenter votre foi. Ne vous focalisez pas sur la santé que vous voulez retrouver. Ne vous focalisez pas sur la réussite du travail que vous voulez. Vous voulez vous lancer dans une affaire et puis, alors vous avez, si vous y pensez tout le temps, vous allez avoir des soucis. Parce que vous allez vous dire, oui, alors je vais faire comme ça. Ben non, il ne faut pas faire comme ça. Parce que la dernière fois, j'avais fait comme ça, puis c'était pas comme ça, il fallait faire. Puis on m'a dit que non, partout, j'ai lu dans tel bouquin que puis, ça y est, c'est fini. Vous ne laissez plus la place à la vie miracle de Dieu. C'est pas. Bien sûr, vous devez faire ce que vous pouvez faire, mais ce qui est le plus important, c'est que vous raviviez votre désir d'augmenter votre foi. Raviver ce désir, c'est ça l'action. C'est ça l'action de votre foi. Une action offensive contre le découragement, contre l'immobilisme, contre le fatalisme, contre la bêtise. C'est ça l'action. Aucune action n'a plus de valeur. Alors, je sais qu'on entend des témoignages fantastiques. Je pense qu'on devrait même des fois interdire ces témoignages parce que les gens écoutent que ça et puis ils en font des doctrines. Alors, on entend des témoignages, je sais que c'est vrai, des gens qui ne savent pas lire, par exemple Raphaël, il ne sait pas lire. Si Violette lui demande qu'est-ce que c'est écrit sur cette bouteille-là, est-ce que c'est du shampoing ou de l'après-shampoing? Il dit, je ne sais pas, il ne sait pas lire. Mais vous lui donnez une Bible, ben, il peut lire. Ça s'appelle un miracle. D'accord? Il a prié pour qu'il puisse lire la Bible et il peut lire la Bible. J'y crois, c'est un miracle. Mais un miracle est un miracle justement parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas habituel, ce n'est pas naturel. N'est-ce pas? Ah, tiens, c'est peut-être un miracle que... Non, ce n'est pas un miracle. J'attends un autre coup de téléphone. Celui-là, il attendra un peu. J'attends que mon frère me téléphone pour me dire s'il a eu son visa. Frère Boukhari. Je crois au miracle. Mais les miracles sont des miracles parce que justement, ils ne sont pas normaux. Ce n'est pas la vie normale, les miracles. Normalement, un homme peut prier pour que Dieu l'aide à apprendre à lire. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on prie pour que Dieu nous aide à apprendre à lire. Et puis, il va prendre un professeur qui va lui apprendre l'alphabet. Il va lui apprendre les différents sons. A, E, I, O, U, les lettres. Cette lettre-là, c'est le F. Quand tu le mets avec un A, ça fait FA. La manière d'assembler les lettres pour former des mots. Alors, il va prendre petit à petit, il va commencer à voir. Ah, le P avec le A, ça fait PA. Ah, mais si je mets deux P, A, P, A, ça fait PAPA. Ah, ça y est, je sais dire PAPA. Super. Alors, il va apprendre des mots tout simples. PAPA, bobine, lune. Moi, j'avais une tante, elle s'appelait Tante Blanche. Alors, elle était toute contente de me raconter. Moi, quand j'étais à l'école, avec son accent vaudois, elle disait, j'étais un jour devant la maîtresse et puis elle me dit des plaies. Alors, je pèle un mot qui était au tableau, puis j'ai lu. Béobo, béibi, enne, lune. Il y en a un qui suit. Elle ne comprenait pas vraiment ce qu'elle... Elle n'arrivait pas à rajouter, à joindre, vous voyez, des syllabes qu'elle avait... Mais il va s'entraîner. Ma tante Blanche, elle s'est tellement entraînée qu'à la fin, elle savait bien lire, je vous promets. Elle a progressé et ensuite, remercier Dieu d'avoir eu un si bon professeur pour lui apprendre si bien à lire, parce que c'est super bien de pouvoir lire des bouquins. Hein, Lucas, c'est bien de pouvoir lire des bouquins. Progresser en lecture, oui, mais il n'aura pas que progressé en lecture, il aura aussi progressé en humilité. Parce que quand on progresse en connaissance, on progresse en humilité. À cause du fait justement qu'on se rend compte que c'est pas facile d'apprendre. Mes frères et sœurs, la foi, elle implique de faire tout notre possible pour réaliser ce que nous espérons. La foi, elle implique de faire tout ce qui est dans notre possible pour réaliser ce pourquoi nous prions. On peut demander à Dieu de faire ce que nous pouvons faire. Et si on ne respecte pas cette règle, on risque de développer autre chose que la foi. J'ai vu souvent des gens, ce n'était pas la foi, c'était du culot. C'était de l'audace qui ne se basait pas sur la parole de Dieu, mais sur du spectaculaire, sur de l'audace, du culot. Et ça a conduit, en général, toujours à un déséquilibre. Il y a des règles en tout. Et nous ne pouvons pas devenir, par exemple, forts et en santé si on ne respecte pas certaines lois nutritionnelles, hein, et le repos et toutes ces choses-là. On ne peut pas non plus devenir prospère avec la paix en même temps dans le cœur si on ne donne pas notre dîme et si on n'est pas honnête. On ne peut pas avoir la pluie au temps voulu si on ne se repose pas le septième jour, c'est la Bible qui le dit, etc., etc., etc. Vous voyez ? La seule façon d'augmenter notre foi consiste à entendre ce que Dieu dit et à l'étudier et à se mettre au boulot, à travailler. C'est ce que je vous disais tout à l'heure au commencement. Nous entendons la parole de Dieu lorsque nous venons en réunion ici à la chapelle et ensuite nous pouvons étudier ces choses dans notre chambre, chez nous, tout seul ou en famille ou avec des frères et sœurs. Alors petit à petit, le désir d'avoir une foi qui augmente est remplacé non plus par un désir, mais par la vraie foi qui commence à se manifester. Et des miracles commencent à être opérés. Des anges apparaissent. Les 9 dons de l'esprit sont accordés. Les prières sont exaucées. Tout apparaît quand la foi apparaît et tout disparaîtra justement parce qu'à la fin des temps, trouverai-je la foi sur la terre. Il n'y aura plus, donc la terre disparaîtra elle-même. Parce qu'elle est sortie du néant. Elle retournera au néant à cause d'un manque de foi. Frères et sœurs, Jésus dit que nous sommes le sel de la terre, que nous sommes la lumière du monde. Alors c'est à nous personnellement, il ne faut pas dire c'est à nous en tant que groupe là, non. À nous personnellement d'augmenter notre propre foi. afin que Dieu soit glorifié au travers de nous personnellement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et soyez fortifiés par ces paroles et comprenez que c'est ainsi que ça se passe et ainsi vous aurez du succès dans tout ce que vous entreprendrez parce que ça, c'est le conseil de Dieu. Augmente-nous la foi. Dieu ne fait pas des miracles pour augmenter la foi des gens. Rarement. Rarement. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Aidez mes frères et sœurs à comprendre ces choses et à les vivre tout simplement en observant les règles, les bonnes règles de ta parole. Merci Jésus. Amen.